Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, c'est le réveil du vendredi matin, le dernier petit effort de la semaine pour vous lever. On est là, évidemment, pour vous accompagner.
Oui, et ce matin, on vous propose une petite expédition au cœur de l'Égypte antique.
Otis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout.
Imotez pas vous.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui...
Voilà, alors le scribe d'Astérix, c'est Cléopâtre, Otis, alias Edouard Baird. On va le couper tout de suite parce que ça dure 2 minutes. Avec ses papyrus et ses hiéroglyphes.
Eh bien justement, vous allez tout comprendre et tout savoir sur les hiéroglyphes.
Oui, une nouvelle exposition à la BNF à Paris explique comment Jean-François Champollion a déchiffré l'écriture fascinante de l'Égypte antique en 1822. On n'explore pas à pas la méthode Champollion, ce savant autodidacte, passionné de langue, père de l'égyptologie, qui est parti de la célèbre pierre de Rosette à percer le mystère ensuite.
Ouais, la pierre de Rosette, cette stèle sur laquelle sont gravées 3 versions d'un même texte, 3 écritures, notamment le grec ancien et le hiéroglyphe.
Oui, nous serons à 6h moins le quart avec l'égyptologue Hélène Virenque, co-commissaire de l'exposition L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. Dans l'actualité ce vendredi 22 avril, Julien.
Le dernier jour de la campagne présidentielle, J-2 avant le second tour. Emmanuel Macron sera à Figeac aujourd'hui. Marine Le Pen, elle, sur Europe 1 entre 8h et 9h.
C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix qu'elle provoque. Le nombre de saisies d'animaux d'élevage explosent depuis quelques mois.
Oui, on parle là de vaches, de moutons ou de chevaux, le plus souvent mal nourris et qui sont placés sur décision de justice dans des fermes d'accueil. C'est simple, depuis le début de l'année, l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, a saisi 1400 animaux, soit d'ores et déjà plus que toute l'année dernière.
Est-ce l'illustration d'un monde de l'élevage en crise ou d'une plus grande prise de conscience de la souffrance animale ?
Oui, car à l'origine de ces saisies judiciaires, il y a des signalements venant de voisins ou de vétérinaires mieux protégé par une nouvelle loi.
Et on en parlera donc à 6h10 avec notre invité Jimmy Goudard, adjoint au directeur de l'OABA.
Et puis on terminera l'émission avec votre partition.
Oui, il a joué avec David Bowie, George Harrison et sur 3 des albums de Johnny Hallyday. Le guitariste Peter Frampton dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors la météo du jour, est-ce qu'elle est toujours coupée en deux ?
Alors,
enfin, notre France est-elle coupée en deux ?
C'est moins franc que hier. On a toujours du beau temps sur la moitié nord du pays, avec un temps calme, un ciel dégagé et du soleil. Là, ça ne va pas bouger. Mais dans le sud, la situation s'arrange légèrement et surtout temporairement, hein. Ça n'a pas duré ce petit mieux. Alors aujourd'hui, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Pyrénées, hein, sur le grand quart sud-ouest, on a des brouillards ce matin, soyez prudents sur les routes. Et cet après-midi, on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Au bord de la Méditerranée, on a un ciel là aussi qui hésite, mais on aura quelques passages ensoleillés avec toujours un petit peu de vent au bord de la Méditerranée. Entre le Poitou et les Alpes, hein, sur le reste de la moitié sud, là on a une matinée ensoleillée, puis vous verrez au fil des heures les nuages bourgeonner dans l'après-midi. En Corse, alors là on a toujours un temps très pluvieux, d'ailleurs on va certainement battre des records de pluviométrie sur la Corse. Ça fait du bien, la Corse en a besoin et on va suivre ça dans la matinée. 3 degrés à Montluçon ce matin, 5 pour Aurillac, 10 à Paris et Marseille et 13 à Nice. Cet après-midi, c'est plus homogène que ces derniers jours. On a moins de différence entre le nord et le sud. On aura 14 à 22 degrés.
C'est noté. Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe. Il est 5h. Et à la une de ce vendredi, J-2, avant le verdict des urnes. Jusqu'au bout, Emmanuel Macron et Marine Le Pen labourent le terrain à la conquête des voix mélenchonistes. Le président candidat en Seine-Saint-Denis hier, la candidate RN en meeting à Arras. Reportage dans un instant. Le pouvoir d'achat a été l'occasion d'une passe d'armes entre Macron et Le Pen lors du grand débat. Bouclier tarifaire contre baisse de la TVA. Quelle mesure est la plus efficace ? Analyse à suivre. Et puis, Boris Johnson sera-t-il contraint de démissionner ? Le Parlement britannique ouvre une enquête dans l'affaire du Partygate. Ces soirées organisées à Downing Street en plein confinement.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Dernier jour de campagne présidentielle avant le second tour. Dernier jour pour convaincre. À minuit, ce sera fini. Ultime meeting de Marine Le Pen hier à Arras, dans le Pas-de-Calais. La candidate RN a opté pour un discours combatif, attaquant Emmanuel Macron et tentant de séduire l'électorat de gauche et les abstentionnistes. Le reportage de Victor Chabert.
Devant plus de 3000 militants chauffés à blanc, Marine Le Pen arrive sur scène et se montre offensive dès ses premiers mots. Elle attaque l'attitude d'Emmanuel Macron lors de leur débat de la veille.
On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite.
Marine Le Pen ne retient pas ses coups. Pour elle, le seul front républicain, c'est le front anti-Macron. La candidate se place ensuite en seule opposante au système, disant qu'elle est la seule alternative sociale et populaire. Mais surtout, en martelant l'anaphore près de 20 fois, elle s'adresse au peuple de France.
Peuple de France, l'heure est venue de te lever. Peuple de France, lève-toi, reprends confiance, défends ton passé, défends ton présent et surtout dimanche, défends ton avenir.
Dans ce dernier discours de campagne, Marine Le Pen sonne la mobilisation générale. Elle tente de séduire les électeurs de gauche en insistant sur son programme social, mais aussi les abstentionnistes. Elle l'a répété, si le peuple vote, le peuple gagne. Arras, Victor Chabert, Europe 1.
Arras, où nous rejoindrons Marine Le Pen ce matin en direct de 8h à 9h. Invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews avec Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari.
De son côté, Emmanuel Macron a rejeté les critiques de Marine Le Pen.
Oui, hein, le président candidat était en Seine-Saint-Denis, hier, département où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Il accuse la candidate de n'avoir plus d'autres arguments avant le second tour. Mais le président candidat insiste, rien n'est joué.
Et parmi les thèmes qui opposent radicalement Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a le pouvoir d'achat.
Et mercredi, pendant le débat, l'un a défendu le bouclier tarifaire, l'autre a plaidé pour une baisse de la TVA, notamment sur le gaz, l'électricité ou encore le fioul. Maud Descamps, vous avez analysé, calculé pour nous sur Europe 1, quelle mesure est la plus efficace ?
Eh bien, premièrement, qu'il s'agisse du gel des prix de l'énergie ou de la baisse de la TVA, ces deux propositions ont la même limite. Elles profitent à tous les Français, y compris ceux qui, a priori, n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. La baisse de la TVA présente une limite supplémentaire. Elle est contraire à une directive européenne. Elle ne peut pas s'appliquer au carburant. Quand bien même la France déciderait d'appliquer cette baisse, qui représenterait environ 15 milliards d'euros, rien ne garantit qu'elle soit répercutée sur les prix de vente, prévient l'économiste Sylvain Bersinger.
Le problème avec la baisse de la TVA, c'est que les entreprises n'ont aucune obligation de répercuter cette baisse de TVA dans leurs prix. Donc par exemple, la baisse de la TVA sur la restauration en 2009 n'a été répercutée qu'à 10% sur les prix. Le bouclier tarifaire, par définition, gèle les prix. Donc il y a bien un gain de pouvoir d'achat direct pour les Français, puisque les prix, arrêtent d'augmenter.
Si le bouclier tarifaire permet en effet une baisse directement répercutée sur les prix, les experts estiment néanmoins que rien ne permet d'affirmer qu'il est deux fois plus efficace qu'une baisse de la fiscalité.
Merci Maud Descamps.
5h passées de 4 minutes sur Europe 1, on prend la direction du Royaume-Uni avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire du Partygate. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, visé par une enquête.
Ouverte par les députés objectifs, déterminer si Boris Johnson a volontairement menti au Parlement sur les soirées organisées à Downing Street pendant les différents confinements liés au Covid, ce qui pourrait le contraindre à démissionner. Explication de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Après ses excuses à la Chambre des communes mardi, Boris Johnson se pensait sorti d'affaire, mais c'était sans compter l'acharnement des partis d'opposition qui ont demandé l'ouverture de cette enquête parlementaire. À leur tête, Keir Starmer, le leader du Parti travailliste.
Après des mois de déni, d'affirmations absurdes que toutes les règles avaient été respectées, d'air faussement scandalisé face aux accusations d'infraction à la loi, nous avons appris que la loi a bien été enfreinte. 50 amendes ont été envoyées, dont une au Premier ministre.
Signe plus inquiétant pour Boris Johnson, les élus conservateurs n'étaient pas nombreux à prendre sa défense. Pire, l'un de ses meilleurs alliés, l'eurosceptique Steve Baker, une figure du Parti conservateur, l'a même lâché en pleine séance aux communes.
Je dois le dire, je suis désolé. Mais pour ne pas avoir obéi à la règle et à l'esprit de la règle, le Premier ministre doit s'en aller. La fête est finie.
Cette enquête parlementaire débutera une fois celle de la police terminée. Si elle établit que Boris Johnson a menti sciemment au Parlement, ce serait un motif de démission ou de vote de défiance contre lui. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
On en vient à ce rebondissement dans une affaire vieille de 15 ans, celle portant sur la disparition au Portugal de la petite Maddie McCann, une fillette britannique de 3 ans.
Un suspect a été mise en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Annonce hier soir du parquet de Portimao, l'homme dont l'identité n'a pas été confirmée, actuellement emprisonné en Allemagne, vivait à Praia da Luz, là où la fillette et ses parents passaient leurs vacances au moment de sa disparition.
C'est un mal bien connu des femmes, notamment celles atteintes d'endométriose, celui des règles.
Et depuis quelque temps, l'idée de mettre en place un congé menstruel circule, démocratisé au Japon ou en Indonésie. En France, les entreprises qui le proposent se comptent sur les doigts d'une main. Parmi elles, une PME près de Toulouse. Concrètement, les femmes victimes de règles douloureuses peuvent poser un jour de congé supplémentaire tous les mois. Alors, vraie ou fausse bonne idée? Écoutez le reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Ça fait 3 ans que Margot est ébéniste. Chez Louis, cette start-up de 18 salariés, dont près de la moitié de femmes, conçoit et produit des meubles de bureau en grandes planches de contreplaqué. Margot les manipule, les ponce, les chanfreine, et pour elle qui souffre de règles douloureuses tous les mois, il y a parfois des journées difficiles.
Je suis du coup très faible, on porte des charges lourdes à répétition, on reste debout, on piétine beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de demander à partir en plein milieu d'une journée parce que je ne me sentais vraiment pas bien et plus apte à travailler, quoi. Le fait de savoir qu'on puisse avoir cette option-là est très rassurante.
Pour Thomas Devino, le directeur général, ce projet porté par les salariés présente aussi un intérêt économique dans l'organisation de l'entreprise.
Quand vous avez une personne qui se sent vraiment pas bien parce qu'elle est vachement affaiblie, on se retrouve au bout de 2 heures à avoir une personne qui manque en fait. Donc on a du retard, etc. De savoir que quelqu'un ne va pas être là tel jour, ça nous permet d'avoir le plus de visibilité et d'éviter les imprévus. On peut anticiper le planning de prod, l'adapter.
Alors depuis qu'il a été mis en place symboliquement le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, aucune salariée n'a encore eu recours à ce congé menstruel. Mais il a déjà permis de casser un tabou parmi tous les salariés pour parler beaucoup plus librement des règles et de ses conséquences. À la Beige, près de Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Il fut acteur dans Les Demoiselles de Rochefort, Le Crabe Tambour, Les Choristes, mais aussi réalisateur de génie dans le documentaire comme Le Peuple Migrateur. Jacques Perrin n'est plus.
Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 80 ans, précise sa famille. Jacques Perrin était un passionné d'animaux, d'êtres vivants, tout simplement. Écoutez-le nous raconter à l'époque sur Europe 1. Son attachement à la nature.
Il y a des sujets qui sont universels et qui ne s'adressent pas simplement à l'hexagone. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment compris que quand même les plus beaux spectacles qu'on puisse rencontrer, la nature nous les propose. Mais elle nous les propose pourvu qu'on ait la patience, qu'on ait le temps, etc. Et donc, ce qui fait que ça coûte au bout d'un certain temps. Mais ça vient. Le grand réalisateur, c'est quand même la nature. Les spectacles qu'elle vous propose, pourvu que vous soyez là, à l'affût. Et c'est des spectacles qui sont étourdissants.
Étourdissant, Jacques Perrin à l'époque sur Europe 1.
Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
À 5h09, ce sont les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 104 Gangster du Vallon. Face à ses aînés, ce trotteur âgé de 6 ans ne peut rêver meilleures conditions de course. Et le style de sa dernière victoire, obtenue le 7 avril sur l'hippodrome de Lyon-Paris, me permet de vous affirmer que sur sa lancée, il ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer pour son retour à Vincennes, que je sais attendu avec sérénité par son entourage. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la première course, le numéro 4, Gangster du Vallon.
Gangster du Vallon, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Mais pas seulement, comme chaque jour, nous sommes 3 autour de la table pour le pressing. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux. Climat, nouvelle alerte en pleine campagne, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Alors que la mer Baltique a enregistré des températures supérieures de 5 degrés à la moyenne et que l'Europe a connu son été le plus chaud en 2021. L'opinion s'intéresse pour sa part à ce que cette campagne dit de la France. Usure institutionnelle. personnel, fracture générationnelle, communautarisme, société de défiance, fatigue post-crise. Le journal libéral a passé en revue ces phénomènes révélateurs de l'état de notre pays. On termine avec le Figaro et cette autre inquiétude. Covid, le repli de la Chine menace l'économie mondiale, titre le quotidien, alors que le confinement strict imposé dans 45 villes chinoises ralentit la croissance et inquiète les grandes entreprises présentes dans le pays. Omblin, à vous, qu'avez-vous sélectionné comme article ?
Il existe des mystères qui entretiennent des mythes, mais les mystères sont faits pour être percés. L'identité du père de Marilyn Monroe en fait partie. 60 ans après sa disparition, on peut mettre enfin un nom et un visage sur ce géniteur qu'elle n'a pas connu et qui lui a cruellement manqué. C'est dans Paris Match cette semaine. Tout commence avec un jeune producteur français de documentaires, François Pommès. Il décide de résoudre cette énigme en faisant appel aux nouvelles technologies d'analyse ADN. Cela veut dire qu'il faut qu'il se procure un échantillon génétique de Marilyn Monroe et un échantillon de son père biologique supposé. Alors sa quête démarre par l'ADN de l'icône. Après quelques désillusions, il arrive à récupérer 8 cheveux, 5 appartenant au coiffeur de Marilyn et 3 à son embaumeur, celui qui a pratiqué les premiers soins mortuaires sur le corps de la comédienne. Alors oui, il en a profité pour lui arracher les cheveux. C'est quand même pas classe. Mais bon, en tout cas, c'est grâce à lui que cette histoire se déroule aujourd'hui. Alors François Pommès envoie ses précieux trésors peroxydés, puisque Marilyn Monroe brûle naturellement se décolorer les cheveux. Donc il envoie ses cheveux à l'un des meilleurs labos à Toulouse qui décrypte l'ADN ancien. Bingo, les scientifiques récupèrent 5% de matériel génétique. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Il s'agit maintenant de trouver le géniteur.
Ça, c'est à cause des teintures à répétition ?
Oui, parce que surtout, il est très ancien, cet ADN. Mmh. Il faut qu'il soit dans un bulbe de cheveux plutôt bien conservé. C'est assez compliqué. Mais 5%, c'est peut-être suffisant. En tout cas, écoutez la suite. Maintenant, il faut trouver le géniteur supposé, puisque la mère de Marilyn Monroe, Gladys, a toujours refusé de dévoiler son identité. François Pommès se lance dans une enquête minutieuse pour dénicher le meilleur candidat. Il se documente beaucoup et le visage d'un homme apparaît. Je vous le montre. Vous regarderez dans le magazine.
Il est plutôt beau gosse.
Exactement. Jolie Charles moustache. Stanley Gifford, un coureur de jupons.
On dirait un parrain de la mafia des années 30.
Exactement. Bah alors on est en pleine époque là. Et en plus, la photo, elle est piquée. Vous avez vu donc ce Charles Stanley Gifford travaillait dans la même société de montage de films que Gladys. Cette photo du jeune homme qui arbore effectivement cette petite moustache à la Clark Gable était d'ailleurs accrochée au mur de la chambre de la mère de Marilyn Monroe. François Pommès se rapproche de la famille de ce Charles Stanley Gifford. Il fait la connaissance notamment de sa petite fille. Des nouveaux échantillons arrivent donc à Toulouse. Le premier résultat, figurez-vous, est négatif. Mmh. Ça ne matche pas. Le producteur s'obstine. Il demande à ce qu'on refasse les tests. Et là, les échantillons d'ADN concordent. Résultat confirmé à 2 reprises. Charles Stanley Gifford est bel et bien le père biologique de Marilyn Monroe. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Toute cette histoire sera racontée en détail dans un documentaire disponible sur MyCanal à partir du 11 mai. C'est Paris Match qui en parle.
Est-ce qu'il a su qu'il était le père de Marilyn Monroe de son vivant ?
On ne sait pas. Le mystère est entier, on ne le sait pas. Puisqu'en fait, Marilyn Monroe ne le savait pas non plus.
Oui.
Et puis surtout qu'il avait beaucoup de conquêtes, ce monsieur. Il venait de se séparer de sa femme quand il a connu, a priori, Gladys Monroe.
D'accord. Voilà. Bon. Oui, Martin ?
C'est un commentaire ?
Bon, allez, à vous, Martin. Merci, Omblin.
Oui, avec un défi un peu fou, celui que s'est lancé ce couple de Niçois. Ils sont supporters de l'OGC Nice, hein, le club de leur ville, et ils vont marcher jusqu'à Paris, 850 km à pied, tout ça pour assister à la finale de la Coupe de France qui opposera les Azuréens à Nantes. Alors, ils s'appellent Iclo et Cindy. Ils sont partis lundi dernier de l'Allianz Riviera, c'est le stade de l'OGCN. Objectif, atteindre Saint-Denis et le Stade de France avant le 7 mai, date du choc contre les Nantais.
Alors, pourquoi s'infliger, Martin ? C'est 850 km. Hein.
C'est vrai, au départ, Iclo et Cindy avaient seulement prévu d'assister au match, mais un jour, Iclo tombe sur un article sur un homme qui a traversé les Pyrénées à pied pour lever des fonds. C'est là que germe l'idée, hein, marcher jusqu'à Paris pour récolter de l'argent, mais pour la bonne cause. La cagnotte va servir à financer le voyage d'un groupe d'enfants défavorisés pour assister à un match de leur joueur préféré la saison prochaine. Un projet validé par le club de Nice. Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'Iclo connaît déjà le trajet. En 2006, Nice avait déjà disputé une finale à Saint-Denis. À l'époque, c'était en Coupe de la Ligue. Et malgré la défaite, le supporter était quand même redescendu sur la Côte d'Azur et à vélo. Alors cette fois, c'est à pied, 10 heures de marche par jour environ, un peu plus de 40 km, ça fait quand même un marathon tous les jours. Alors évidemment, il y a des ampoules, des courbatures, mais après 4 jours, les corps commencent à s'habituer, d'autant que leur périple commence à être connu de tous, si bien que des comités d'accueil les attendent désormais à leurs étapes, avec le plus souvent le gîte et le couvert. Alors si au départ, il y avait beaucoup de supporters niçois pour les attendre, désormais le mouvement prend de l'ampleur et c'est des supporters d'autres clubs qui leur envoient des messages de soutien. Sur les réseaux sociaux, leur petite aventure suscite en tout cas l'engouement. Ils ont déjà récolté 600 euros. L'objectif, c'est 3000. Mais Iclo voit plus grand. On aimerait que le plus d'enfants possible en profitent. Ce serait l'occasion pour eux de sortir de la ville, de prendre l'avion. On aimerait pouvoir les faire rêver. Reste une question, le retour. Certainement pas à pied, répond Iclo. Mais pourquoi pas avec la coupe. 850 km à pied pour rejoindre le Stade de France. Le défi foot, c'est deux Niçois. C'est sur le site de 20 minutes.
Bon, je suis sûr qu'en cas de victoire des Aiglons, ils reconsidéreront la question du retour. S'il y a la coupe sous le bras, on peut repartir.
On peut remarcher 800 km. Vous avez montré.
Non. Non,
pas,
non.
Pas ce matin.
Ouais, après, je peux bien aller. Si Liverpool fait le quadruplé cette saison, on en reparle.
On y va en train.
Bon, le Stade de France d'ici, c'est moins loin quand même. Pour la finale de la Ligue des Champions.
C'est vrai. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article de West France consacré à ce qui pourrait être une avancée majeure dans la lutte contre les infarctus qui provoque, vous le savez peut-être, en moyenne 12 000 décès en France chaque année. Petit rappel, l'infarctus du myocarde, c'est quand une plaque de cholestérol se détache et vient boucher une artère coronaire. Il y a un caillot qui se forme et ça interrompt l'apport de sang, ce qui prive ainsi le cœur d'oxygène. Eh bien, une équipe de recherche de l'université King's College de Londres vient d'annoncer avoir réalisé une prouesse. Ils sont parvenus à rétablir les tissus musculaires de cœur endommagés par des crises cardiaques, des cœurs de souris et de porcs en l'occurrence, mais les chercheurs espèrent passer prochainement aux essais sur les humains. Alors pour bien comprendre cette avancée, il faut savoir que contrairement à notre intestin ou à notre peau, le cœur est un muscle qui ne se régénère pas ou très peu. Or quand survient un infarctus, le choc est tel que les cellules composant les tissus de l'organe meurent ou sont très endommagées à tel point qu'une partie du cœur peut se nécroser. C'est pour cette raison que les personnes ayant subi un infarctus développent souvent par la suite une insuffisance cardiaque, les tissus ne fonctionnent plus, résultat le cœur n'est plus capable de pomper le sang de manière efficace, ce qui rend les malades fatigués, essoufflés, et ce pendant des mois, des années, voire à perpétuité. Vous comprenez donc mieux pourquoi arriver à régénérer ces tissus serait une formidable avancée. Ces chercheurs y sont donc arrivés chez des souris et des porcs grâce, tenez-vous bien, au vaccin à ARN messager contre le Covid. Ils ont sélectionné des molécules minuscules appelées micro-ARN, des acides nucléiques, comme on dit, plus petits qu'un gène, et qui sont connus depuis une quinzaine d'années pour leur rôle dans la réparation des cellules qui composent le cœur. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'amener ces molécules miraculeuses jusqu'au cœur, encore plus de les fixer dans la durée pour qu'elles puissent travailler efficacement. C'est là qu'entrent en jeu les vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna. L'ARN messager qu'ils comportent est enveloppé dans une couche de lipides. Imaginez une fusée, un vaisseau qui amène des astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Eh bien, c'est le rôle de cette couche de lipides qui, grâce à la pandémie, a fait ses preuves sur des millions d'êtres humains, tous ceux ayant reçu, comme vous et moi, les injections de Pfizer ou de Moderna. Les scientifiques du King's College ont donc enveloppé leur micro-ARN dans cette couche de lipides et ils ont injecté le tout à des porcs et des souris et les résultats sont très prometteurs car 15 jours après la piqûre, les molécules étaient toujours présentes dans le cœur et avaient commencé à le réparer. Reste donc maintenant à tester tout ça sur l'humain et si tout se passe bien, un traitement pour l'infarctus pourrait voir le jour d'ici quelques années seulement. C'est très court pour la recherche médicale et ça c'est grâce à la technique utilisée. Vu qu'elle a fait ses preuves pendant la pandémie, les chercheurs ne vont pas avoir à passer toutes les étapes réglementaires exigées habituellement pour chaque nouveau traitement.
Merci beaucoup. C'est
À lire dans West France.
À lire dans West France, c'était passionnant. Merci. Julien, merci. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
C'était le pressing, à tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Bientôt 5h20 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
La présidentielle à minuit ce soir, fin de la campagne avant le second tour dimanche. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera élu président ou présidente de la République? Les deux candidats se sont à nouveau affrontés à distance. Hier sur le terrain, Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis, Marine Le Pen en meeting à Arras. La guerre en Ukraine et cette déclaration de Vladimir Poutine, l'armée a libéré Mariupol, ville pilonnée par Moscou depuis le début du conflit. Cette affirmation est contestable, estime Joe Biden, le président américain, au moment où les États-Unis annoncent une nouvelle aide de 800 millions de dollars. Et puis, le numéro 8 mondial du tennis, Andrei Rublev, a réagi à l'exclusion des joueurs russes et biélorusses du tournoi de Wimbledon. C'est totalement discriminatoire, répond le tennisman.
À 5h20, c'est la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes et les initiatives en France. Et elle nous emmène ce matin dans les Hauts-de-France.
Bonjour Fabrice Furlan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur et CEO de Plume. C'est une jeune entreprise nordiste qui a conçu une trottinette électrique pas comme les autres, puisque c'est la toute première à avoir été certifiée Origine France Garantie. Expliquez-nous.
Oui, on est les premiers à avoir cette certification Origine France Garantie. En fait, on a une démarche chez Plume, c'est d'inventer les solutions qui transforment les façons de se déplacer, et on a volonté de réinventer la trottinette de demain, mais dans une démarche responsable. On part quand même du constat aujourd'hui que le premier marché, il est français et européen, et la micromobilité aujourd'hui est installée dans nos paysages urbains et elle participe à la décongestion de nos villes. Et c'est un non-sens d'avoir ce marché avec des engins qui sont à usage décarboné, sur lesquels ils parcourent 10 000 km pour venir jusqu'en France, puisque quasiment l'intégralité des engins et des trottinettes électriques sont fabriqués en Chine.
Ça veut dire quoi exactement, Origine France Garantie, qu'une majorité des composants de cette trottinette sont fabriqués en France ?
Oui, c'est pas juste du Made in France. En fait, il faut bien dissocier le Made in France de Origine France Garantie. L'Origine France Garantie, c'est une certification qui est auditée. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste des composants qui sont approvisionnés en France et qui sont ensuite assemblés en France. C'est bien de la manufacture. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui est opérée sur le territoire français. Et nous, on a 82% de nos composants qui sont manufacturés en France. Et nos process ont été audités pour être certifiés Origine France Garantie.
Et même la batterie de cette trottinette électrique est concernée, elle est d'origine française ?
Oui, elle est d'origine française et on s'accompagnait d'une marque qui s'appelle Gouache, qui a inventé un nouveau système de batterie et elle est assemblée sur Bordeaux. Donc même la batterie est française.
Ouais, et elle a une particularité, cette batterie, c'est qu'elle est 100% réparable.
Oui, tout à fait. En fait, chez Plume, la réparabilité n'est pas juste un objectif, ça fait partie de la philosophie de notre marque. Il est important qu'on ait des engins durables. Et pour être durable, il faut qu'elle soit réparable. Et la société Gouache a inventé un nouveau système qui permet de démonter, désassembler la batterie et de changer chaque cellule. Il faut savoir qu'une batterie est constituée de cellules, dit autrement des piles, et c'est des composants qui s'usent et donc qui nécessitent d'être remplacés. La majorité de ce qui existe sur le marché en termes de batterie sont des cellules qui sont soudées entre elles, donc difficiles à réparer. La technologie Gouache permet de désassembler. Et c'est cette technologie qu'on a intégrée dans notre plume allure.
Alors, votre trottinette électrique est durable, réparable, on vient de l'entendre, made in France, mais elle a aussi une autre spécificité, c'est qu'elle a été, je crois, pensée pour limiter les risques d'accident, c'est ça ?
Oui, dans toute la valeur de cette nouvel engin, on a vraiment voulu concevoir, inventer une nouvelle génération d'engins pour répondre aux besoins de nos utilisateurs d'aujourd'hui. Et le premier besoin, c'est la sécurité. Chez Plume, la sécurité se traduit par l'hypervisibilité. Donc on a adapté sur l'engin tout un éclairage qui permet de voir, ce qui est essentiel, mais surtout d'être ultra vu. On a des bandeaux LED à l'image de ce qui existe sur les phares d'automobile. Donc on a tout un éclairage de visibilité qui est sur l'avant, qui permet d'être vu de manière très éloignée, mais aussi à l'arrière, avec des indicateurs de direction.
Et puis ajouter à cela un grand écran connecté au téléphone portable, une double fourche suspendue, un large plateau où l'on peut mettre ses pieds de façon parallèle, bref... C'est une trottinette version SUV, c'est-à-dire confortable et tout-terrain, quoi.
Pas tout-terrain, SUV, parce qu'elle a vraiment été conçue pour les besoins de mobilité, hein, de se déplacer tous les jours de manière intermodale, mais aussi monomodale, c'est-à-dire de pouvoir faire des trajets directs en confort et en sécurité. Je veux parler de la sécurité et de l'ultra-visibilité, mais le premier élément de sécurité, c'est d'avoir un engin qui soit fiable et durable. Donc la double fourche participe à la robustesse de l'engin, et c'est ce qui permet d'avoir aussi ce confort avec un large plateau pour pouvoir faire des distances un peu plus allongées. Il y a un confort de puissance aussi, puisqu'on a adapté une roue moteur de 500 watts, une batterie de 48 volts. Tous ces critères techniques, en fait, sont pas des critères de puissance au sens premier du terme, mais une puissance de confort. C'est-à-dire qu'un utilisateur, on a adapté l'engin sur lequel on peut avoir un utilisateur jusqu'à un poids de 120 kg, là où la majorité des engins sont à 100 kg. Et sur ces poids, la trottinette est capable d'emmener un utilisateur à vitesse constante et aussi de passer des côtes, des reliefs, sans faiblir. C'est ça la puissance de confort.
Et justement, vous parlez de poids, mais elle n'a pas l'air d'avoir un poids plume, votre trottinette avec tous ses équipements.
Non, ce n'est pas un poids plume en soi. Elle est moins lourde que la concurrence, mais notre engin, c'est un engin qui répond à des besoins prioritaires chez nos utilisateurs, qui sont le confort, la sécurité, la fiabilité, la réparabilité. Donc on a voulu en priorité jouer ces atouts-là. Et on n'a pas voulu faire un produit moyen, c'est-à-dire un produit qui est bon en tout, n'est pas forcément un produit qui répond correctement à chaque besoin. Donc on a voulu jouer fort les forts. Et chez nous, fort les forts, c'est la sécurité, la fiabilité, la robustesse.
Quelle est son autonomie?
Donc on a deux autonomies, c'est-à-dire que ce modèle est décliné avec une batterie qui est à 45 km d'autonomie. C'est la première déclinaison. Et la deuxième va jusqu'à 70 km d'autonomie.
Oui, ce qui est largement suffisant pour des trajets au quotidien urbains. On peut se la procurer comment, cette trottinette Allure, c'est son nom?
Nous lançons une campagne de crowdfunding sur la plateforme Kickstarter qui démarre lundi prochain. Donc c'est des préventes. Ces préventes, elles sont importantes pour nous dans un contexte de pénurie. Ça veut dire que nos clients peuvent d'ores et déjà la commander pour l'obtenir en octobre. C'est une étape qui est importante pour nous parce que ça permet d'anticiper des appro composants, comme vous le savez, notamment sur l'électronique, où c'est assez compliqué aujourd'hui. Donc ça démarre lundi par cette campagne de crowdfunding, mais même au-delà de cette campagne de crowdfunding, vous pouvez toujours la précommander depuis notre site internet Plume.
Avec un tarif plus attractif pour cette campagne de financement participatif?
Oui, tout à fait. On a un prix lancement, donc la version 45 km est à 1099 €, la 70 est à 1399 €, et c'est ces deux tarifs, nous faisons une remise de 20%.
Merci beaucoup Fabrice Turlan de nous avoir présenté Plume et sa trottinette électrique durable, réparable et fabriquée en France et même origine France garantie. Excellente journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h27, merci beaucoup d'écouter Europe 1. Bon réveil à tous et à suivre le journal de 5h30 de Christophe Lamarre. Et puis cette question, comment Jean-François Champollion a-t-il réussi à déchiffrer les hiéroglyphes?
Une exposition passionnante en ce moment à la BNF à Paris vous permet de remonter le fil de l'histoire, de comprendre comment le père de l'égyptologie a percé le mystère. Le hiéroglyphe, cette écriture composée de signes qui expriment soit un mot complet, soit une idée, soit un son, grâce à des archives exceptionnelles, des notes, des objets. Vous suivez pas à pas la méthode Champollion. Nous serons dans un quart d'heure avec la co-commissaire de l'exposition L'Aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes.
Et puis juste après votre rendez-vous musique du vendredi.
Son concert donné en 2007 au festival de Glastonbury dans le sud-ouest de l'Angleterre va sortir en vinyle le 3 juin prochain. Amy Winehouse en live, c'est le choix de Stéphanie Loire.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert, toutes les infos sur murprotec.fr.
La météo avec Anissa Haddadi et encore beaucoup de pluie sur la Corse.
Oui, d'ailleurs, on risque de battre des records de pluie mensuels sur l'île de Beauté. Il pleut encore. Alors ce matin, là, pour l'instant, à 5h28, il pleut uniquement sur le nord de l'île, du côté de Bastia, mais dans la journée et dans la matinée en particulier, les pluies vont vraiment se montrer beaucoup plus intenses. La Corse et la Côte d'Azur sont concernées par ces pluies ce matin. Dans la matinée, sur le reste de la moitié sud, ça va mieux. On a des éclaircies qui sont bien plus nombreuses. On a moins de pluies et d'averses, notamment sur le quart sud-ouest, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Attention tout de même dans ce secteur du quart sud-ouest au brouillard ce matin. Et puis cet après-midi, le temps sera plus calme sur la moitié sud, mais attention, sur la Vendée, l'Auvergne, les Alpes, on a des orages qui éclatent. Sur au nord de la Loire, encore comme hier, c'est calme, c'est ensoleillé, c'est une journée printanière. 4 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 6 pour Strasbourg, 9 à Lille, 10 à Paris et Marseille et 13 degrés déjà ce matin pour Nice.
Et le week-end alors, Anissa?
Alors le week-end, il sera beaucoup moins beau que le week-end dernier, le week-end pascal qui était presque estival. Là, ça va changer. J'espère que vous avez des jeux de société à la maison, parce que c'est le gris qui l'emporte samedi. Samedi, on a encore une petite poche de soleil sur le nord, au nord de la Seine, mais dans l'après-midi, les nuages vraiment envahissent tout le pays avec pas mal de pluie. Sur la Côte d'Azur et la Corse, ça va être très très fort en termes de pluie. Dimanche, le gris l'emporte partout et des gros orages sur la Côte d'Azur et la Corse. On va vraiment suivre ça parce que ce sont des cumuls très importants d'eau qu'on attend sur le sud-est.
Anissa Haddadi, merci ou pas d'ailleurs. Un bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent leur dernière force dans la bataille de l'entre-deux-tours. Dernier meeting aujourd'hui dans le Lot pour le président sortant. La candidate du RN, elle, sera dans la Somme. Éliminée du premier tour de la présidentielle, la gauche se rêve majoritaire à l'Assemblée. Les socialistes acceptent de se ranger derrière la France insoumise pour les législatives de juin prochain. Et puis le football, la renaissance de Strasbourg. À 5 journées de la fin du championnat, les Alsaciens sont aux portes d'une qualification en Ligue des Champions.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La campagne prendra fin officiellement ce soir à minuit. Dernière occasion pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen de croiser le fer à distance. Un seul enjeu, mobiliser les abstentionnistes et séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État était à Saint-Denis hier en région parisienne, terre mélenchoniste. Il sera à Figeac aujourd'hui pour un dernier meeting. Jacques Serret, le président jette toutes ses forces dans la bataille.
Oui, Emmanuel Macron estime que rien n'est joué, c'est lui-même qui le dit.
Moi je suis déterminé, concentré, engagé. Les Françaises et les Français ils font leur choix le 24 avril et donc rien n'est joué.
Hier, à Saint-Denis, il a multiplié les bains de foule au contact parfois d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Et moi, ce qui est vrai, encore plus qu'il y a 5 ans, je devrais intégrer les exigences des uns des autres, y compris de gens qui n'ont pas voté comme vous pour moi en premier temps.
Et pour tenter de les convaincre, il s'est empressé une nouvelle fois de viser Marine Le Pen.
J'ai écouté le projet, je l'ai vu. Et il touche beaucoup de gens ici. Je veux que chacun en ait conscience. Ça veut dire qu'une jeune dame marocaine qui a 2 enfants, qui travaille à l'hôpital, avec le programme de Madame Le Pen, cette dame, on lui enlèvera son logement social et ses allocations familiales.
Un candidat qui va jusqu'à enfiler des gants de boxe devant les caméras, tout un symbole. Emmanuel Macron qui va remonter une dernière fois sur le ring cet après-midi à Figeac pour un meeting en plein air dans cette ville de près de 10 000 habitants. Des ruelles, des vieilles pierres et une jolie place ensoleillée dans une commune rurale. Voilà la dernière carte postale qu'enverra le candidat à 2 jours du scrutin.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen reste dans les Hauts-de-France après un dernier meeting hier soir à Arras. Elle sera à Abbeville dans la Somme aujourd'hui. La candidate du Rassemblement National sera aussi l'invitée d'Europe 1 ce matin entre 8h et 9h. Entretien exceptionnel codiffusé sur CNews et animé par Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari.
Et après la présidentielle, il y aura, vous le savez, les législatives. La gauche rêve de remporter ce que l'on appelle parfois le troisième tour.
Et notamment Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de la présidentielle qui se verrait bien Premier ministre d'une future cohabitation. Cela suppose de passer des accords en vue d'un rapprochement, principe accepté par les socialistes. Il faudra ensuite obtenir la majorité à l'Assemblée. Est-ce possible, Alexis de La Fontaine ?
Eh bien, concrètement, aujourd'hui, les groupes de gauche cumulés représentent 63 députés, très loin donc des 289 nécessaires pour avoir la majorité. Et pour combler cet écart, il faut s'unir, affirme Jean-Luc Mélenchon, soutenu par l'écologiste Éric Piolle et surtout par Fabien Roussel, le leader communiste.
Le Premier ministre sera issu de cette majorité et... Je soutiendrai la proposition que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre.
Si une alliance entre les Insoumis, les Verts, les Socialistes et les Communistes aboutit, Fabien Roussel estime entre 120 et 150 le nombre de sièges facilement gagnables, plus 300 le nombre de circonscriptions où un candidat de l'Union peut arriver au second tour face à un macroniste ou un lepéniste. Et cet accord avance bien, confie un négociateur. Le PS est maintenant favorable à un accord avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon a supprimé de son programme les points clivants comme la sortie du nucléaire. Pour le moment, l'Union est donc envisageable, conclut un cadre écolo optimiste.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, les experts psychiatres se sont penchés sur le cas Abdeslam.
C'est le principal accusé de ce procès. Salah Abdeslam a toujours refusé de les rencontrer, mais il a fini par accepter le principe de l'expertise psychiatrique il y a 5 mois. Entretien de 2 heures. Conclusion des experts, Gladys Laffitte, le dernier membre vivant du commando est un homme ordinaire.
Oui, en résumé, Salah Abdeslam, c'est la fameuse banalité du mal, confirme l'un des psychiatres qui l'a analysé. C'est-à-dire que sa personnalité était tout à fait ordinaire jusqu'à ce glissement quand il entre dans un système totalitaire qui pense à sa place comme tous les radicalisés, décrypte le médecin, c'est-à-dire l'idéologie de l'État islamique. Une carapace à laquelle Salah Abdeslam s'accroche, car si elle se fissurait, elle provoquerait son effondrement psychique, de son propre aveu aux experts. Alors, il oscille entre deux postures, celle du djihadiste véhément et celle du petit gars de Molenbeek qui montre ses émotions, il est dans le « en même temps », dit un psychiatre. Et c'est effectivement ce qu'on a pu voir de Salah Abdeslam pendant ses 7 mois d'audience. Un signe d'évolution, veulent croire les médecins, qui résument ainsi l'enjeu de l'accusé. Un retour à la case départ avant le choix de la déshumanisation, je cite.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Maddy, cette petite fille de 4 ans volatilisée dans la nature en 2007. La justice allemande vient de mettre en examen un pédophile multirécidiviste actuellement en détention. L'homme était dans le collimateur des enquêteurs depuis 2 ans.
La guerre en Ukraine à présent, la bataille de Mariupol semble toucher à sa fin.
Même si les déclarations sont pour l'instant contradictoires, Vladimir Poutine affirme avoir pris le contrôle de la cité portuaire, ce que contestent les Américains. Les derniers soldats ukrainiens sont toujours retranchés à l'intérieur d'un immense complexe industriel. Le Kremlin ne donnera pas l'assaut et préfère attendre qu'il dépose les armes, faute de vivres et de munitions. La disparition d'un grand homme de cinéma, l'acteur et réalisateur Jacques Perrin, est mort à 80 ans. Il avait décroché son premier grand rôle dans la 317e section, film de Pierre Schoendoerffer. On le retrouvera aussi dans la comédie musicale des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Passé à la production, Jacques Perrin reçoit 2 Césars pour Microcosmos, Le Peuple de l'Herbe et Le Peuple Migrateur.
Le football, à présent, la Ligue 1 touche à sa fin. 34e journée prévue ce week-end. Paris devrait enlever son 10e titre de champion. Marseille se contentait de la 2e place. Et pour la 3e, Strasbourg a toutes ses chances.
Oui, et ce serait un retour au premier plan pour un club qui a traversé bien des tempêtes. Relégué en National 3, l'équivalent de la 5e division en 2011, il n'a cessé de gravir les échelons. 4e de Ligue 1 aujourd'hui, il est aux portes d'une qualification pour la prestigieuse Ligue des Champions, pour le plus grand plaisir de ses supporters. Reportage Mélina Fachin.
Lucas, Lucille et Yves, 3 supporters indéfectibles du Racing, comme on dit ici, ont rarement été aussi fiers de leur équipe.
Incroyable. Je m'y attendais un peu avec le nouvel entraîneur Julien Stéphan, mais pas à ce point-là, quoi.
C'est énorme.
Surtout quand ils repensent au chemin parcouru depuis 10 ans.
Ben, l'envolée, elle est juste radicale. Ça fait depuis la Nationale 2, on monte.
Tu te rends compte, il y a quelques années, on faisait les villages de campagne en CFA, CFA 2. C'est indescriptible comme sentiment.
Avec 11 matchs d'affilée sans défaite, Strasbourg est pour l'instant 3e exécutif. En nombre de points avec Rennes et Monaco, le podium n'est plus de l'ordre du fantasme.
On a de grandes chances et on espère tous, on y croit.
Et la Ligue des Champions n'a jamais paru aussi proche.
Ça fait depuis le début de la saison, je pense qu'on peut aller en Europe.
Pas peut-être aller en Champions League parce que je pense que ce serait un peu trop difficile pour nous, mais pourquoi pas l'Europa League ou la Conference League, ce serait déjà un très bon début.
L'année prochaine, si on l'entend, on pleure. C'est l'amour et pour toujours.
Il reste 5 matchs cette saison pour créer l'exploit, notamment le choc contre le PSG dans une semaine à la Méno. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Il y a un petit club qui est en train de devenir grand. Cette 34e journée débutera demain soir. 3 matchs au programme. Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Monaco et PSG Lens.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses hippiques. Les pronostics du Quintet avec l'inusable Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à Vincennes que se disputera ce Quintet, une course européenne aux 3 attelés qui réunira 15 juments âgés de 6 et 7 ans sur la distance de 2100 mètres et sur ce tracé de vitesse priorité à celles qui s'élanceront en première ligne derrière l'autostart avec les numéros 4 Gitane Dubois, facile lauréate le 21 mars à Caen et qui depuis a été réservée pour cet objectif, 2 Gravaletta, battu du minimum le 9 avril à Vincennes sur ce tracé, 7 Geisha Speed, ayant déjà prouvé qu'elle avait largement le niveau d'une telle épreuve, et 8 Zante Laser, une Italienne insaisissable, mais qui bien lunée n'est pas incapable de faire l'arrivée, d'autant plus qu'elle a été volontairement ménagée ces dernières semaines. Enfin les numéros 10, Last Winner, 5 Orlando, 3 Gamizaka et 6 Wonderby compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 2, 7, 8, 10, 5, 3 et 6.
Merci Thierry Léger, les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et ce matin, on revient sur l'un des plus gros succès de Johnny Hallyday, la chanson Que je t'aime, qu'il a chantée pour la première fois en public sur Europe 1. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
À la base, Élise, Johnny était à Europe 1 pour répéter son spectacle.
Oui, dans les locaux historiques d'Europe 1, rue François 1er à Paris, Johnny Hallyday répète le show qu'il va ensuite donner au Palais des Sports pendant une semaine.
Ok, 1, 2. Come on, Tommy.
Pour l'occasion, le chanteur est invité d'Europe Midi. Il répond aux questions de Jacques Paoli.
Cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, Johnny ?
Cette nuit ?
Oui.
Alors, cette nuit, j'ai fini le show de télé que je devais faire. Tourné sous la pluie, en extérieur. Alors, je suis un peu enroué aujourd'hui.
Je sais pas, il paraît qu'avec Jean Renard et avec Gilles Thibault, vous avez quand même profité de quelques minutes de détente pour fabriquer une nouvelle chanson.
Oui, enfin, on a travaillé sur une chanson dont Jean vient juste de finir la musique. Et on va le répéter ce soir avec le grand orchestre. Oui.
On pourra l'essayer tout à l'heure sur un piano ici.
Ça va pas être formidable, mais d'accord.
Non, enfin, on peut essayer.
Ouais. Johnny Hallyday, modeste, n'a pas encore conscience du succès que va connaître cette chanson, mélange d'un texte d'amour écrit par son parolier Gilles Thibault, alors fou amoureux, et d'une mélodie plus dramatique, composée par Jean Renard en plein tourment sentimental. Le résultat, vous le connaissez, et voici la toute première version piano-voix dévoilée au grand jour sur Europe 1.
Comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
On entend Johnny Hallyday au piano, c'est la naissance, Élise, d'un tube en cette fin d'année 60.
Oui, Johnny la chante au Palais des Sports toute la semaine, puis l'enregistre en studio. La version 45 tours qui sort deux mois plus tard s'écoulera à plus de 700 000 exemplaires en France. Numéro 1 des ventes pendant 4 mois, c'est tout simplement la meilleure vente de single de l'année 1969.
Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, 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 que je t'aime.
Que je t'aime redeviendra un hit en 1988 avec un tout nouvel habillage musical signé Michel Berger, créé spécifiquement pour les concerts de Johnny à Bercy.
Merci beaucoup, Élise Dangean. Dans un instant sur Europe 1, les secrets des hiéroglyphes déchiffrés par Champollion. Une exposition se tient en ce moment à la BNF.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, il est 5h et bientôt 44 minutes. Et on se lance à présent dans les pas du père de l'égyptologie, un certain Jean-François Champollion. La BNF à Paris consacre une grande exposition à celui qui a percé le secret des hiéroglyphes.
Bonjour Hélène Virenc.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes égyptologue, chargée de collection à la Bibliothèque Nationale de France et co-commissaire de l'exposition « L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes ». Une expo qui a lieu dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement de cette écriture bien mystérieuse que sont les hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui est présenté à la BNF pour nous aider à comprendre l'aventure et la méthode Champollion ? C'est beaucoup d'archives ?
C'est des manuscrits, principalement des manuscrits de Jean-François Champollion, parce que lorsque nous avons préparé cette exposition, nous avions à cœur de puiser dans les 88 volumes des papiers Champollion conservés à la bibliothèque. Et dans ces 88 volumes, on a trouvé des textes, des notes, des brouillons, des dessins de cet égyptologue. Et on a trouvé des textes qui s'étendent tout au long de sa vie. On a un manuscrit qu'il a écrit, qu'il a rédigé alors qu'il avait 14 ans, quand il était encore un adolescent très précoce, fasciné par les langues orientales. Et on a ces manuscrits jusqu'à ceux de la grammaire égyptienne, donc qui est un de ses ouvrages les plus importants dans sa carrière, dont les dernières pages ont été rédigées peu de mois avant sa mort. Donc on a véritablement plus de 20-30 ans de manuscrits. Notre souhait, c'était de les mettre en regard avec des pièces provenant de musées, donc des papyrus, des sarcophages, des statues, des choses qu'il avait pu voir à la bibliothèque, au musée du Louvre et aussi au musée de Turin.
Donc ainsi, on suit son cheminement de pensée, on suit sa démarche grâce à ses notes, grâce à ses manuscrits, jusqu'au déchiffrement du hiéroglyphe.
Oui, on a souhaité faire une exposition thématique avec une première partie consacrée au déchiffrement des hiéroglyphes et savoir, depuis ses prédécesseurs, depuis les premiers savants qui s'intéressaient à cette écriture mystérieuse, comment se sont succédés les différents types d'hypothèses, d'interprétations, les tâtonnements qu'il y a eu dans cette course au déchiffrement, et comment Champollion lui-même n'a pas surgi de nulle part. Hein, c'est des années de travail en bibliothèque et en musée. Et on a ces étapes du déchiffrement, dont font partie des documents importants, comme la pierre de Rosette, dont nous présentons deux reproductions, un estampage et un moulage. Et on suit sa méthode. C'était notre souci principal de présentation, c'était suivre sa méthode de déchiffreur.
Alors, en quelques mots, qui est-il, ce Jean-François Champollion ?
C'est un esprit assez précoce et enthousiaste. C'est pas un passionné d'école, il est plutôt autodidacte. Il a été formé principalement par son frère aîné, qui avait 12 ans de plus et qui l'a initié, encouragé, porté, soutenu dans les moments difficiles. Et Jean-François Champollion est né en 1790 à Figeac, mais il a suivi la plupart de son éducation, de son instruction, entre Grenoble et Paris, où il a habité en fonction aussi des événements politiques de ce début du XIXe siècle. Donc c'est son frère qui a eu un rôle, son frère qui était aussi son parrain, et qui a eu un rôle fondamental dans son éducation, et qui lui a aussi ouvert les réseaux parisiens, où par la suite il a pu se faire une place et être nommé ainsi en 1826 conservateur au musée du Louvre.
Un passionné de langue, hein, oui. Aussi de langue orientale, vous l'avez précisé. Pouvez-vous nous rappeler, dans les grandes lignes, hein, parce que c'est un travail de plusieurs années, comment il s'y est pris pour déchiffrer le hiéroglyphe ?
Alors, il a bénéficié de trois critères. Donc, pour qualifier un déchiffrement réussi, on s'appuie donc sur des documents bilingues ou trilingues. Donc, bilingues comme la pierre de Rosette qui est écrite en égyptien et en grec ancien. Et c'est appuyé sur aussi des papyrus bilingues, donc des époques tardives en Égypte. Il a bénéficié de beaucoup de sources, de planches de publication, de relevés, de personnes qui avaient voyagé en Égypte avant lui et qui lui ont envoyé des fragments de cartouches de noms royaux, de noms de divinités, de lieux. Donc il était dans un réseau de savants et d'échanges de sources. Donc un corpus de sources importants, des documents bilingues, et aussi une très bonne connaissance du copte. Le copte, c'est le dernier état de la langue égyptienne, et on sait qu'il y avait dans cette langue et cette écriture copte des signes qui avaient leur source dans les hiéroglyphes égyptiens. Et Champollion maîtrisait très très bien le copte, il le parlait seul dans la rue, il le raconte dans ses lettres à son frère, « Je parle copte tout seul dans les rues de Paris ». Et c'est sans doute ces trois critères qui ont été décisifs pour le déchiffrement.
Et la difficulté, Hélène Virac, il faut le dire, hein, c'est que le hiéroglyphe n'est pas un alphabet.
Non, c'est pas un alphabet. On dit souvent alphabet hiéroglyphique, ça c'est aussi plus simple pour expliquer comment fonctionnent les consonnes principales qui correspondent à notre alphabet. Mais c'est une association de signes qui, en fonction de leur place dans leur phrase, du contexte religieux ou profane, et fonctionnent de différentes manières. Ils peuvent correspondre à un son, hein, donc un signe égale un son, ce sera un phonogramme. Il peut être relatif à une idée, à un idéogramme, et ils peuvent même ne pas se prononcer et se placer à la fin d'un mot pour le classer dans une catégorie. On va parler de déterminatif, de classificateur. Et donc ça veut dire qu'un signe peut avoir trois utilisations différentes. Et l'intuition de Champollion, c'est que justement cette écriture mélangeait ces trois systèmes. C'est extrêmement complexe.
On ne comprenait pas les textes égyptiens avant Champollion.
Non, on ne les comprenait pas. On pensait que c'était une écriture mystérieuse, sacrée, ésotérique, et qui recelait des mystères complètement impossibles à comprendre. Donc Champollion a une approche scientifique, rationnelle, fruit d'un travail de longue haleine, et c'est pour ça qu'il est lié à la naissance, et que cette année de 1822 est liée à la naissance de l'égyptologie, parce que c'est la création d'une nouvelle discipline scientifique. On va pouvoir étudier l'Égypte ancienne dans le texte, sans passer par des intermédiaires, sans passer par d'autres interprétations grecques ou latines. Et ainsi, il redécouvre aussi une civilisation. C'est ça, son génie, en fin de compte, c'est d'avoir rendu à la civilisation égyptienne son originalité, sa spécificité, ses divinités tellement particulières, mais il les a comprises dans leur aspect original.
Merci beaucoup, Hélène Virenque, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, égyptologue, chargée de collection à la Bibliothèque nationale de France et co-commissaire de l'exposition L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes qui se tient à la BNF jusqu'au 24 juillet. Merci encore, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, on revient en 2022 avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Dernière journée de campagne présidentielle avant le verdict des urnes dimanche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent leur dernière force aujourd'hui dans la bataille. Le président candidat tiendra un ultime meeting à Figeac dans le Lot, tandis que la candidate RN reste dans les Hauts-de-France pour un dernier déplacement à Abbeville dans la Somme. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine revendique le succès de la libération de Mariupol, ville portuaire martyre depuis le début du conflit, une affirmation contestée par Joe Biden. Le président américain estime qu'il n'y a aucune preuve que Mariupol soit complètement perdue. C'est dans ce contexte que l'armée française a affirmé avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps dans le nord du Mali, dans le but, selon elle, d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux.
C'est le rendez-vous des amoureux de la musique.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Ambline, bonjour Julien.
Ce matin, vous nous parlez d'un événement qui va avoir lieu demain partout en France, le Disquaire Day.
Oui, le Disquaire Day est de retour pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est la journée internationale qui célèbre les disquaires indépendants et le vinyle. Un événement très important dans la filière musicale. Un événement qui propose de découvrir les vinyles du moment, mais aussi de partir à la découverte des disquaires qui sont près de chez vous, dans votre ville. Alors, de nombreux événements sont organisés partout en France pour cette 12e édition. C'est d'ailleurs à travers cette journée mondiale de soutien aux disquaires indépendants que s'est opéré le grand retour du vinyle. Vous savez, le 33 tour avec ce petit bruit si agréable. Voilà. Alors, moins agréable en revanche quand le disque est rayé. Voilà. Mais bon, ce bon vieux 33 tours fait à nouveau un carton, y compris auprès d'un public de trentenaires qui n'en a pourtant jamais connu l'âge d'or. Le streaming reste certes le mode de consommation le plus répandu de la musique avec 65% du temps d'écoute selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Mais le vinyle fait plus que résister. Après avoir plongé, ses ventes ont quadruplé depuis 2010 et il dépasse aujourd'hui le milliard d'euros dans le monde. Son chiffre d'affaires vient même de dépasser celui du CD aux États-Unis et il est en passe de le rattraper en Grande-Bretagne et en France.
Bon, qu'est-ce qu'on retrouve comme événement à l'affiche du Disquaire Day à présent ?
Eh bien, beaucoup de choses, des concerts, des showcases, des DJ sets, des dédicaces, des expos aussi. À Paris, par exemple, le Musée des Arts et Métiers dédie cette journée au vinyle et revient sur l'histoire de cet objet qui a traversé les époques. Vous allez pouvoir y découvrir l'histoire du vinyle, du gramophone d'Émile Berliner aux 33 tours d'aujourd'hui. À Marseille, il y aura des concerts en soirée qui sont organisés par les disquaires, notamment à la Maison Hantée. Et puis, à la disquerie à Mâcon, il va y avoir un atelier rock et une exposition de vinyle collector, s'il vous plaît, qui se tiendront. Il se passe quelque chose quoi qu'il arrive chez tous les disquaires près de chez vous, alors allez leur rendre une petite visite et puis célébrer ces commerçants indépendants qui sont avant tout des passionnés de musique.
Une autre actu qui concerne le vinyle hein, d'ailleurs, un concert mythique de la chanteuse Amy Winehouse à écouter chez soi, Stéphanie.
Oui, le 23 juillet 2011, Amy Winehouse disparaissait à Londres à l'âge de 27 ans. Elle a laissé derrière elle une famille en deuil et des millions de fans dévastés dans le monde. Alors que le monde s'apprête à commémorer les 11 ans de cette disparition, un vinyle exceptionnel va être publié le 3 juin prochain par Universal. Un disque grâce auquel on pourra profiter de l'une des performances les plus iconiques de l'artiste. Il s'agit de son concert légendaire au festival de Glastonbury. C'était en 2007. Ans qu'elle a donné ce show mythique. On pourra y savourer en live ses plus grands tubes tels que Rehab, Back to Black ou encore You Know I'm No Good ou Valérie que j'adore. Une prestation qui reste ancrée dans les mémoires comme l'un de ses meilleurs concerts. Ce live à Glastonbury a été un vrai tournant dans la carrière d'Amy Winehouse, qui était alors au sommet de son art.
Merci beaucoup Stéphanie Loire, on se quitte avec l'un des titres de ce disque live, Rehab sur Europe 1. Just try, don't make me go to Rehab. I won't go, go, go.
Avec son tube Rehab, l'un des titres du live at Glastonbury 2007, disque qui sortira le 3 juin prochain pour célébrer les 15 ans de sa performance.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un phénomène inquiétant dans les fermes françaises.
Oui, le nombre de saisies d'animaux d'élevage maltraités explose depuis quelques mois. On parle là de vaches, de moutons ou de chevaux, le plus souvent mal nourris et qui sont placés sur décision de justice dans des fermes d'accueil. C'est simple, depuis le début de l'année, l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, a saisi 1400 animaux, soit d'ores et déjà plus que toute l'année dernière. Comment l'expliquer? Est-ce un symptôme, un de plus, d'une agriculture française en crise, terriblement impactée aussi par la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des céréales et des engrais? On en parle dans une dizaine de minutes avec notre invité Jimmy Guédard, adjoint au directeur de l'OABA. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Un chanteur et musicien anglais devenu célèbre grâce à ses collaborations et grâce à l'utilisation d'une talk box qui modifiait le son de sa guitare. Son live en 1976 fera de lui une star, la partition de Peter Frampton dans 20 minutes.
Et la météo, c'est avec vous Anissa Haddadi. Et le soleil se montre un peu plus aujourd'hui?
Oui, surtout dans le sud. Hein. On a une petite accalmie, là ça fait du bien au bord de la Méditerranée jusqu'en vallée du Rhône. Le ciel est un petit peu plus dégagé aujourd'hui. En allant vers l'ouest, vers la façade atlantique, ce matin on a de l'humidité qui provoque des brouillards. Soyez prudents hein, sur les routes du Gers ou encore du Lot-et-Garonne. Et puis très rapidement, les nuages vont se dissiper. La journée sera plus lumineuse, mais prudence parce que cet après-midi sur les Alpes, la Côte d'Azur, le Limousin, la Vendée, on a des orages qui éclate. Au nord de la Loire, rien à signaler, c'est toujours printanier. 4 degrés au Puy-en-Velay ce matin, 7 à Belfort et Biarritz, 10 à Paris et Ajaccio et 13 déjà pour Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le vendredi 22 avril. Et il est 6h. À deux jours du scrutin, la France divisée face au duel Macron-Le Pen. Nous serons dans un village du Nord où les deux candidats ont obtenu exactement le même nombre de voix au premier tour. Cela paraît improbable. Est-ce que le débat a changé la donne? Reportage dans un instant. Le piège russe se referme sur Mariupol. Les derniers combattants sont réfugiés dans une usine symbole de la résistance ukrainienne imprimée sur un timbre, un objet déjà collector en Ukraine. Et puis un film qui fête ses 40 ans mais qui n'a pas pris une ride. Retour en 1982, année où le monde découvre E.T., l'extraterrestre terrestre du grand Spielberg, une marionnette qui inspire encore les créateurs de séries.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. 44 points, voilà ce qui séparait Emmanuel Macron et Marine Le Pen à deux jours du premier tour en 2017. Cinq ans plus tard, l'écart ne serait plus que de 15 points selon les derniers sondages.
Un duel serré dans une France coupée en deux à l'image de ce village du Nord.
Oui, à Staples, moins de 700 habitants, les deux candidats sont arrivés à égalité parfaite au premier tour, 134 voix chacun. Entre-temps, est-ce que le débat a fait pencher la balance? C'est la question que notre correspondant Lionel Gougelot a posée aux habitants.
Électeur d'Emmanuel Macron au premier tour, Francis, retraité, mettra le même bulletin dans l'urne dimanche prochain. Pour lui, le débat de mercredi n'a strictement rien changé.
Pour moi, personnellement, mon choix a été fait. Et puis il sera pareil au deuxième tour.
Même chose pour Priscilla, jeune mère de 4 enfants, électrice de Marine Le Pen.
Il faut que ça change. Mais bon, après on verra. Hein. Mais pour l'instant, je reste sur ma première décision.
Alors Macron-Le Pen à stricte égalité dimanche prochain comme au premier tour? Eh bien, pas si sûr. Selon Colette et Freddy, le face-à-face de mercredi soir, va peut-être malgré tout faire bouger les lignes.
C'est possible, ça peut changer.
Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu sur certaines phrases, ça donne à réfléchir.
On verra ça dimanche.
En tout cas, tout cela laisse de marbre Fabrice, le mélenchoniste.
Je vais aller voter, parce qu'il faut voter, mais je pense que je vais voter bulletin blanc.
Tout comme Marie-Ange, abstentionniste revendiquée.
Alors, moi, j'ai pas voté la première fois, et la deuxième fois, je ne sais pas, je suis réticente.
Eddy Lefebvre, le maire, lui, croise les doigts pour que ces antagonismes politiques ne viennent pas troubler la vie du village.
Il y a un peu de débat, un peu d'échange, engagé sans être réellement tendu. Mais globalement, dans le village, il y a une ambiance qui est plutôt bonne.
Et lundi, au lendemain de l'élection, Staple devrait retrouver sa tranquillité au cœur de cette belle plaine des Flandres.
Le reportage de notre correspondant dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Le duel Macron-Le Pen continue aujourd'hui à distance. Dernier jour de campagne, Marine Le Pen sera à Abbeville dans la Somme. Le président candidat à Figeac dans le Lot.
En Ukraine, la ville de Mariupol entre les mains des Russes. Une libération, je cite, revendiquée par Vladimir Poutine. L'armée intensifie le siège d'une aciérie où seraient terrés 2000 combattants et des civils.
Le symbole de la volonté de fer de la résistance ukrainienne que l'État a choisi d'immortaliser sur un timbre. On y voit un soldat ukrainien faire un doigt d'honneur au Moskva, le navire amiral russe coulé la semaine dernière. Une édition imprimée à plus d'un million d'exemplaires et déjà collector. Le reportage de notre envoyé spécial à Kiev, William Molinier.
La file d'attente fait plusieurs centaines de mètres. Au bas mot, un millier de personnes nourrit l'espoir de se procurer ce nouveau timbre anti-russe devenu l'emblème de la victoire. Igor fait la queue depuis 7h du matin.
Mon neveu se bat en ce moment à Mariupol dans l'usine Azovstal au sein du bataillon Azov. Je vais lui offrir ce timbre. S'il est vivant, je lui donnerai en vrai. Sinon, eh bien, je le donnerai à sa mère, qui est ma sœur.
Irina a fui il y a 2 semaines les bombes de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Acheter ce timbre où l'on voit un militaire ukrainien faire un doigt d'honneur à un navire russe est pour elle un acte politique.
J'ai commandé des timbres pour moi et mes amis qui restent à Kharkiv et qui ne peuvent pas quitter la ville. C'est très important pour moi parce que ma ville maintenant est presque détruite. Ce timbre symbolise notre résistance.
Une professeure des écoles très émue tient entre ses mains une trentaine d'exemplaires.
C'est l'histoire qui est importante pour moi. Ce qu'on vit maintenant, c'est important. Je ressens de la fierté pour mon peuple. On se serre les coudes. Nos militaires défendent nos frontières et notre terre. C'est notre terre sainte et on y restera. Même si les Russes reviennent à Kiev, je suis prête à prendre des armes et à combattre.
Dans ce petit bout de papier de quelques centimètres carrés, certains y voient un concentré de l'âme ukrainienne, si bien qu'il est déjà en rupture de stock et ne se vend plus qu'à la poste centrale de la capitale, place de l'indépendance, tout un symbole. Kiev, William Molinier, Europe 1.
6h et bientôt 5 minutes sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 22 avril, journée mondiale de la Terre. Le changement climatique, sujet majeur qui a occupé un temps microscopique dans les médias.
Oui, à peine 4% depuis février selon le décompte de plusieurs ONG. Protéger l'environnement, une préoccupation pourtant quotidienne pour bon nombre de Français, y compris devant nos poubelles, bacs jaunes, bacs bleus ou ordures ménagères. Forcément, on s'est déjà posé la question. La moitié des Français ne recyclent pas systématiquement. Et quand nous le faisons, ce n'est pas toujours de la bonne manière. Le plus difficile, Louis Salé, c'est surtout de maîtriser les règles du tri.
Oui, les règles varient d'une collectivité à l'autre et surtout, elles évoluent dans la plupart des villes françaises. Désormais, il faut mettre tous ces emballages, quelle que soit leur composition, dans le bac de tri. Stéphanie Foucard est directrice mobilisation citoyenne pour l'organisme de recyclage Citeo.
Vous pouvez trier tous les emballages en métal, tous les emballages en papier carton, tous les emballages en verre. Et pour les emballages plastiques, vous avez une petite différence entre les territoires. Il y a une partie des Français, un tiers, qui vont trier les bouteilles et les flacons en plastique. Et vous allez avoir voire une autre partie, deux tiers des Français qui vont pouvoir trier tous les emballages en plastique sans exception.
Pour s'y retrouver, il existe même des applications qui scannent les produits afin de savoir où les jeter.
Vous pouvez utiliser l'appli Guide du tri de Citeo qui vous indique la consigne de tri de votre commune. Donc elle est géolocalisée. Elle va même vous préciser la couleur de bac. Parce que ça peut aussi quelquefois désarçonner lorsque on part en vacances ou on va visiter des amis, de ne pas s'y retrouver dans les couleurs de bac qui peuvent être différentes dans les villes.
En 2023, tous les territoires suivront la même règle, tous les emballages dans le bac de tri.
Louis Salé du service Société d'Europe 1. C'était un petit pas d'extraterrestre, mais un grand pour le cinéma. E.T. fête ses 40 ans, film cultissime de Steven Spielberg, projeté cette nuit à Los Angeles. Vous reconnaissez la, la musique mythique du film. E.T. et son doigt lumineux qui a marqué des générations. Retour en 1982 avec Marie Jiquel.
Une créature pas plus haute qu'un mètre.
E.T. téléphone maison.
Qui a écrasé au box-office le colossal Star Wars et ses effets spéciaux inédits à l'époque. Alors pour rendre son E.T. le plus vivant et réaliste possible, Steven Spielberg a fait appel à un sculpteur bien connu du cinéma, comme l'explique Julien Dumont, le directeur du musée Miniatures et Cinéma de Lyon.
Ils ont déjà utilisé, ça peut être un petit enfant ou un Cujat, dans le costume qui a été créé par Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi, c'est le designer, créateur d'effets spéciaux à l'origine de King Kong et d'Alien. Et il crée en fait une marionnette entièrement animée avec des câbles de frein de vélo en fait.
Il a dit téléphone !
40 ans après avoir rejoint sa fameuse maison, l'envahisseur attachant et apeuré inspire toujours le cinéma.
Quand on voit Stranger Things, c'est du repompage de E.T. avec les enfants dans la banlieue américaine des années 80 avec leur vélo.
E.T. l'extraterrestre fut le film le plus rentable de l'histoire jusqu'à la sortie d'un autre film culte de Spielberg, Jurassic Park.
Julien, en toute sincérité, est-ce que vous avez quand même versé une petite larme devant le film ? Vous savez, la scène où on pense qu'E.T. est mort, bien sûr. La gorge serrée, les larmes aux yeux, la totale.
J'ai la larme facile, vous savez.
D'accord, vous êtes un sentimental.
Oui, j'ai pas l'air comme ça ?
Si. Bon. Non, j'ai rien dit.
Bon, c'est la fin de votre journal ?
C'est la fin, je m'en vais.
Bon, à bientôt.
6h08, les sports, ça vous va ?
Oui.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et on commence, Martin, avec du rugby féminin et le 15 de France qui affrontera le Pays de Galles ce soir.
Oui, les Bleus espèrent rester invaincus dans ce tournoi des 6 nations. Elles ont remporté leurs 3 premiers matchs et ce déplacement ce soir à Cardiff fait office de demi-finale avant le choc face à l'Angleterre la semaine prochaine. Des Anglaises qui peuvent elles aussi viser le Grand Chelem. Pour ces deux matchs capitaux, le staff a donc fait appel à ses cadres, l'entraîneur en chef Annick Hérault.
On a fait pas mal tourner l'effectif, on voulait donner du temps de jeu à certaines joueuses. Et là, on a resserré le groupe. Voilà, on peut le préparer comme une demi-finale si on veut s'ouvrir la porte de la finale et le week-end d'après.
Annick Hérault, jointe pour Europe 1 par Axel May.
Un mot de cyclisme, Martin, avec des larmes hier.
Oui, celle de Thibaut Pinot. Le Français est passé tout près d'une première victoire depuis 1006 jours. La dernière, c'était au sommet du Tourmalet lors du Tour de France 2019. Hier, au Tour des Alpes, le Franc-Comtois a fait toute la course en tête, rejoint à 1 km seulement de la ligne par le Colombien Miguel Angel Lopez, vainqueur après l'avoir déposé. Forcément frustrant.
Là, je suis loin d'être à mon niveau. Normalement, personne ne me rattrape et c'est ça qui est frustrant. C'est encore une occasion de rater. Ça m'aurait fait du bien de gagner aujourd'hui et j'aurais pu tourner cette page de merde et puis passer à autre chose.
Thibaut Pinot chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Au général de ce Tour des Alpes, Peyo Bilbao reste leader devant Romain Bardet avant la dernière étape aujourd'hui.
Enfin, dans le reste de l'actualité sportive.
Du foot avec une première pour une femme, Stéphanie Frappard arbitrera la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain. Du tennis, et ça va beaucoup mieux pour Djokovic. Après sa reprise délicate à Monte-Carlo la semaine dernière, le numéro mondial retrouve la forme chez lui à Belgrade. Le voilà en demi-finale après sa victoire hier contre son compatriote Kekmanovic. Et puis du basket, jour de revanche pour Monaco en Euroleague. Après leur défaite en début de semaine, les Monégasques doivent réagir à Athènes contre l'Olympiakos, sous peine d'hypothéquer leurs chances de qualification.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant, les saisies judiciaires d'animaux de ferme explosent depuis quelques mois. Pourquoi ? Eh bien on voit cela dans une minute avec Jimmy Gouédard de l'OABA. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité Julien est adjoint au directeur de l'OABA, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir.
Bonjour Jimmy Gouédard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin pour nous parler du travail que fait l'OABA, association de protection des animaux de ferme, confrontée depuis quelques mois à un phénomène inquiétant, une explosion des saisies judiciaires de bêtes maltraitées, des chevaux, des vaches ou encore des moutons que vous accueillez dans vos refuges. Vous en avez sauvé combien depuis le début de l'année ?
Depuis le début de l'année, on est à environ, enfin plus de 1300 animaux.
Oui.
Sachant que sur l'année 2021, au total, nous étions à 1100 animaux, 1133 précisément, animaux saisis.
Donc en moins de 4 mois, vous avez fait plus que de 12 mois de l'année dernière.
Exactement.
Comment vous l'expliquez ?
Alors, il y a plein de raisons, que ce soit structurel, que ce soit conjoncturel, ne serait-ce que par le contexte actuel, qui est la guerre en Ukraine. Mais aussi le côté structurel, c'est-à-dire le monde agricole qui est en crise depuis un nombre d'années assez incalculable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OABA est obligé de refuser de prendre en charge certains animaux. Pas plus tard qu'hier, on a refusé une saisie de 200 animaux parce qu'on n'a pas les moyens.
Vous n'avez plus de place dans vos fermes d'accueil.
On n'a plus de place d'un point de vue effectif, mais aussi d'un point de vue financier. Sinon, on serait obligé de mettre en péril la trésorerie de l'association et donc de mettre en péril aussi les animaux qu'on a déjà sous notre garde.
En effet, si ce rythme se poursuit, le nombre d'animaux saisis va être multiplié par 4 d'ici la fin de l'année. C'est colossal. Vous avez mentionné la guerre en Ukraine. C'est un accélérateur. On sait que ses conséquences font exploser les prix des céréales, des intrants, des engrais. C'est aussi pour ça que les éleveurs n'arrivent plus à nourrir correctement leurs bêtes.
Exactement. Alors après, tous les éleveurs ne sont pas à pointu de joie. Ça, déjà, il faut le dire, c'est une minorité. Mais effectivement, oui, cette augmentation des prix du blé, mais aussi des carburants, qui est essentielle au bon fonctionnement d'un exploitant agricole, fait que ils n'arrivent pas tous les jours à joindre les deux bouts et que ils vont forcément nourrir un petit peu moins leurs bêtes, ce qui va causer des petits problèmes au niveau vétérinaire. Mais vu qu'ils n'ont pas spécialement plus spécialement les moyens de payer le vétérinaire, ils vont reporter les soins et de fil en aiguille,
c'est un engrenage.
Voilà, exactement.
Cette maltraitance, elle recouvre quoi le plus souvent ?
Ça peut être effectivement du manque de nourriture, mais ça peut être aussi le fait de les parquer dans des endroits qui sont plus petits par rapport à l'espace vital dont a besoin l'animal. Évidemment, c'est différent selon que ce soit un mouton ou une vache, évidemment. Mais voilà, ça peut prendre diverses facettes.
Sévices également.
Oui,
totalement. Des violences volontaires d'agriculteurs qui perdent pied psychologiquement face à leurs difficultés.
On en a. Effectivement, c'est pas la majorité, mais il y en a, effectivement. Mais après, la plupart du temps, ce sont des problèmes, on va dire, sociaux et économiques de l'agriculteur qui entraînent justement ce déni, on va dire, du bien-être animal qui va du coup, où on va arriver sur des maltraitances.
Et ces difficultés, vous en parlez directement avec les agriculteurs que vous rencontrez, ils s'ouvrent à vous assez facilement quand même vous êtes là pour saisir leurs propriétés, leurs animaux ?
Tout dépend, encore une fois. Il y a effectivement des agriculteurs qui sont coopératifs, qui comprennent effectivement qu'ils font du mal à leurs bêtes et qu'il est mieux pour eux de s'en débarrasser à un moment donné, quitte à recommencer par la suite. Et il y a effectivement d'autres agriculteurs qui effectivement eux ne souhaitent pas comprendre et où les retraits sont beaucoup plus compliqués effectivement.
Dans quel cadre intervenez-vous ?
Toujours sur demande de l'État. On intervient soit avant le jugement, soit après le jugement. Si c'est avant le jugement, c'est parce qu'il y a une situation d'urgence pour les animaux. Donc là, c'est le procureur de la République qui nous demande d'intervenir avant le jugement. Et si c'est après le jugement, c'est parce qu'il y a eu une peine de confiscation des animaux. Et donc là, il faut exécuter cette peine. Et c'est à l'OABA, entre autres, avec la Fondation Brigitte Bardot, d'exécuter cette décision. Tout simplement parce que l'État, aujourd'hui, n'a pas la structure, que ce soit pour saisir les animaux, mais aussi pour les garder à long terme.
Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces animaux, chez vous en tout cas ?
Il y a deux types, il y a deux types de procédures, parce que l'OABA n'est pas une association qui est abolitionniste, c'est-à-dire qu'on est réformiste, c'est-à-dire qu'on est même toujours d'accord avec le principe de l'élevage, mais par contre, on souhaite que soit pris en compte le bien-être animal dans cet élevage, mais aussi à l'abattage. Et donc, soit les animaux vont rejoindre le circuit classique, c'est-à-dire ils vont être remis dans le circuit d'élevage, avec une fois qu'ils ont été remis, on va dire, dans de bonnes conditions de vie, c'est-à-dire que ce soit physiquement, mais aussi en termes de stress, parce qu'ils ont été beaucoup stressés. Et donc, dans ces cas-là, on les confie à des éleveurs qui sont partenaires et qu'on connaît bien. Ou alors, effectivement, on les intègre dans ce qu'on appelle le troupeau du bonheur. Et à ce niveau-là, ça veut dire que les animaux vont intégrer là aussi des fermes partenaires et vont finir leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent de façon naturelle, sans être ni exploités, envoyés à l'abattoir. Pardon.
Oui. Comment êtes-vous averti d'une possible situation de maltraitance ?
Alors, on est averti soit par des particuliers, Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être
des voisins qui passent, qui remarquent qu'un cheval qu'ils ont bien connu il y a bien portant il y a 2 ans et a aujourd'hui la peau sur les os.
Exactement, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi les professionnels puisque les éleveurs sont assujettis à un certain nombre de contrôles par année, que ce soit des vétérinaires, mais aussi les services de la préfecture qui font des contrôles, inopinés dans des élevages. Et donc effectivement, voilà, c'est par ces biais-là principalement que nous sommes informés. Oui.
Est-ce qu'en ce sens, la loi de lutte contre la maltraitance animale qui a été promulguée, je crois, en novembre dernier fait une réelle différence puisqu'elle renforce, je crois, le rôle des lanceurs d'alerte.
Effectivement. Après, c'est une avancée certaine. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, notamment d'un point de vue justement pour récupérer les animaux, pour les stocker et pour les faire vivre derrière. Mais après, effectivement, oui, c'est une avancée qui n'est pas négligeable, ne serait-ce que d'un point de vue sociétal.
Oui. Est-ce que, à l'image de ce qui s'est passé après le mouvement MeToo et les agressions sexuelles faites aux femmes, vous avez le sentiment que cette explosion du nombre de saisies, elle correspond pas forcément à une réalité nouvelle, mais simplement la parole s'est libérée d'une certaine manière. Les acteurs du milieu de l'élevage ou les voisins, comme vous les expliquez, ont moins de scrupules à appeler.
Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, alors qui est beaucoup moins importante que le phénomène MeToo. Oui. Mais effectivement, il y a une vraie prise de conscience sur le bien-être animal. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus de dénonciations? Des maltraitances, il y en a eu, il y en aura. On espère qu'il y en aura le moins possible, bien évidemment, qu'on prenne en compte ce nouveau phénomène est très important, oui.
Vous nous disiez au tout début de l'interview que vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus accepter de nouveaux animaux. Vous nous disiez que pas plus tard qu'hier, vous avez dû en refuser 200. Est-ce que vous coordonnez avec les autres associations qui font le même travail que vous?
Aujourd'hui, d'un point de vue national, il n'y a que la Fondation Brigitte Bardot qui peut également recevoir ces animaux, car il s'agit uniquement des associations reconnues d'utilité publique, ce qui est le cas de l'OABA et de la FBB. Mais après, effectivement, oui, il y a une coordination avec les associations plus locales, si on arrive à les identifier, parce que c'est pas toujours simple non plus, mais on essaye de faire au mieux, ce qui est parfois compliqué.
Est-ce que vous échangez, à l'inverse, avec les représentants du monde agricole, la FNSEA, par exemple?
Complètement. L'OABA est aussi, a parmi ses missions, aussi une mission de concertation avec les autorités et les ministères, où sont effectivement présentes les associations animalistes, mais aussi les associations les partenaires agricoles, dont la FNSEA.
Donc vous faites de la prévention
auprès d'eux? Exactement. On travaille en amont, mais aussi en aval, pour maîtriser le sujet de faute en comble et essayer effectivement de l'éradiquer.
Merci beaucoup, Jimmy Guédard, adjoint au directeur de l'OABA, d'avoir été avec nous ce matin. Je précise à nos auditeurs qui souhaiteraient, vous avez parlé du financement, mais soutenir vos actions, qu'ils peuvent faire un don directement sur votre site internet oaba.fr. Excellente journée à vous.
Merci beaucoup.
Europe Matin,
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
À minuit, ce sera fini. Dernier jour de campagne présidentielle avant le scrutin dimanche. Les deux finalistes entament la dernière ligne droite aujourd'hui avec un ultime meeting pour Emmanuel Macron à Figeac, dans le Lot. De son côté, Marine Le Pen ira à Abbeville, dans la Somme. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, ciblé par une enquête des députés britanniques. Objectif, déterminer si le Premier ministre britannique a sciemment menti au Parlement dans l'affaire du Partygate, ces soirées organisées en plein confinement à Downing Street. Rebondissement dans l'affaire de la petite Maddie McCann, cette fillette britannique de 3 ans disparue au Portugal en 2007. Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Il est actuellement emprisonné outre-Rhin.
On termine cette semaine avec votre partition, Omblin, consacrée ce matin au guitariste virtuose, l'anglais Peter Frampton.
Oui, c'est un musicien que vous connaissez peut-être mal. Il se peut que vous ayez seulement entendu son nom quelque part et pourtant, je suis sûre que le son de sa guitare vous est familier. D'abord parce que la liste des chanteurs avec qui il a travaillé fourmille de noms prestigieux. Son ami d'enfance, David Bowie, par exemple, on va y venir. Et puis, parce que dans les années 70, Peter Frampton signe quelques succès qui feront le tour de la planète.
Oh, Prodige de la guitare, Peter Frampton n'a que 16 ans lorsqu'il fonde son premier groupe.
Il s'appelle The Heard, franchement beau gosse, le frontman au talent et au charme fou, fait vaciller les cœurs. La presse musicale le gratifie du titre Visage de l'année 1968. Coqueluche des jeunes anglaises, Peter Frampton souhaite se défaire de cette image qu'il juge trop sage. Il quitte The Heard et forme le groupe Humble Pie qui pendant 4 ans va secouer la scène hard rock.
Et là encore, il va claquer la porte, trop occupé par des sessions d'enregistrement avec d'autres artistes.
Oui, je vous parlais de ses collaborations plus tôt. Outre David Bowie, on peut citer George Harrison, Ringo Starr, les Bee Gees et aussi Johnny Hallyday. Peter Frampton va accompagner l'idole sur 3 de ses albums et notamment Insolitude qui contient la musique que j'aime. Mais pendant ce temps, la carrière solo du guitariste ne décolle pas vraiment jusqu'au live de 1976.
La reconnaissance mondiale arrive avec l'album Frampton Comes Alive.
Enregistré dans 4 salles de spectacle américaines à San Francisco, Plattsburgh près de New York, à New York et San Rafael en Californie, Peter Frampton a 25 ans et le guitariste entre dans l'histoire de la musique grâce à l'utilisation d'un appareil ingénieux, une talk box. La musique produite par la guitare est envoyée dans un tuyau en plastique attaché à son micro. Ainsi, Peter Frampton fait parler son instrument, modifie le son à l'aide de sa bouche, un son qui devient métallique à l'image du vocodeur. Voilà cette talk box que Peter Frampton présente aux yeux du monde en 1976 en live, donc sur scène. Elle va aussi séduire, sachez-le, Stevie Wonder. D'autres vont lui préférer le vocodeur entièrement électronique. Et l'autotune, hein, ce logiciel apprécié entre autres par les Daft Punk.
Oui, ça sonne très Daft Punk là, effectivement. Alors dès lors, Peter Frampton devient une star internationale.
Oui, pour le magazine musical de référence Rolling Stone, ce disque Frampton Comes Alive devient le maître étalon de l'album live. Il s'installe 10 semaines au sommet des charts américains, écoulé à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde, il reste l'un des enregistrements en concert les plus vendus de tous les temps. Frampton, son succès en live en 1976, Baby, I Love Your Way. Le guitariste fête ses 72 ans aujourd'hui. Atteint d'une maladie musculaire dégénérative, il s'est lancé dans une tournée d'adieu qui se terminera à la fin de l'année. Peter Frampton sera en concert au Grand Rex à Paris le 10 novembre.
Date à ne pas manquer donc. Merci beaucoup, Omblin. Et à lundi, les amis, rendez-vous à partir de 5h. Excellent week-end à tous.